L'émission de référence de l'actu barcelonaise.
Le cercle sur Equinox.
Barcelone accueillait aujourd'hui au siège de l'Union pour la Méditerranée au palais de Pedralbes une réunion informelle de 29 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et de différents pays du sud de la Méditerranée. Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy et le président catalan Artur Mas étaient évidemment sur place pour accueillir les différentes délégations. Au programme de ce sommet, les relations de voisinage entre les différents pays, mais aussi la menace terroriste qui plane actuellement. Alors on attendait assez peu d'annonces concrètes de cette réunion, puisqu'en réalité les questions de sécurité et de renseignement appartiennent au ministre de l'Intérieur et non au ministre des Affaires étrangères. Laurent Fabius assistait à ce sommet pour la France. Il explique au micro d'Equinox Radio comment s'est déroulée la réunion.
Il faut que nous travaillions davantage ensemble. On s'aperçoit qu'en fait, nos sorts sont liés sur le plan du développement, sur le plan de la sécurité, sur le plan des migrations. Et tous mes collègues et moi-même, nous avons fait la remarque que finalement, nous ne rencontrerons pas assez souvent. J'ai d'ailleurs proposé que cette réunion puisse avoir lieu annuellement et que le secrétaire de l'UPM, qui travaille très bien, nous aide à travailler dans ce sens. Donc, deuxième remarque, entre nous, les pays dits du Nord et les pays du Sud, enfin en tout cas les pays de l'Union européenne et les pays du Sud, ça doit être un vrai partenariat. C'est-à-dire il n'y a pas ceux qui décident et puis ceux auxquels ça s'applique, mais il faut vraiment que nous travaillions la main dans la main et que nos projets puissent être adaptés, différenciés, et que lorsqu'il y a des financements, ces financements arrivent rapidement. J'ai pris l'exemple de la Tunisie. La Tunisie est un pays qu'on doit soutenir, qu'on soutient, mais souvent il faut mieux apporter moins de financements et les apporter très vite que apporter des financements en théorie plus importants, mais trop tard. Troisièmement, il y a eu un sentiment nouveau qui existe au sein de l'Union européenne. Auparavant, les pays plutôt à l'est de l'Europe s'occupaient du voisinage est et les pays plutôt au sud de l'Europe s'occupaient plutôt des pays du sud. Maintenant, ça a changé. Chacun s'aperçoit que nous sommes concernés par tout ce qui se passe, notamment sur le plan de la sécurité, du terrorisme, du développement économique. Et donc, nous nous occupons tous de l'ensemble. C'est une très bonne chose, c'est ce qui rend ce type de format encore plus important. Je pense que c'est une réunion utile et j'en félicite beaucoup mon collègue, M. Margaillot.
On a l'impression que la France est un pays le plus touché en Europe, notamment avec l'attentat de Charlie Hebdo en janvier, encore la semaine dernière avec le piratage de TV5 Monde. Pourquoi ?
Nous sommes tous concernés. Il y a eu des attentats malheureusement en France, mais il y en a aussi en Belgique, il y en a dans d'autres pays et il y en a aussi au sud de la Méditerranée. Ce qu'il faut mettre en commun, c'est à la fois nos renseignements. Évidemment, il faut que la lutte contre le terrorisme soit coordonnée. Nos méthodes, il faut s'y prendre très en amont pour empêcher en particulier les départs de combattants qui vont combattre à l'étranger. Il faut avoir une action de formation. Alors on pense à la question de la formation des imams. Il faut avoir une action dans les prisons. Il faut avoir une action, ça demande une coordination très très étroite pour la répression. Le sentiment qui s'est dégagé ce matin, c'est que vraiment tout le monde se sent menacé. Alors soit dans son propre territoire, mais aussi parce que maintenant tout le monde voyage. Lorsque nous sommes des voyageurs, voire des touristes. Donc ce n'est pas un problème qui est ressenti par les uns et pas ressenti par les autres, c'est vraiment maintenant un problème général. Et la France, comme vous le savez, à travers les mesures que nous avons prises, les mesures concrètes, les mesures financières, les mesures législatives, est totalement mobilisée pour lutter contre le terrorisme.
Pour une dernière question, pour revenir à la lutte contre le terrorisme, est-ce que les sites français à l'étranger, je pense à la communauté française d'Espagne en particulier, est-ce qu'ils sont encore sous surveillance maximale?
Bien évidemment, dans le cadre du plan de lutte contre le terrorisme, il y a des mesures qui ont été prises en France, que vous connaissez, et il y a eu un renforcement de la protection de l'ensemble de nos sites, partout là où il y a des menaces potentielles. Donc nous sommes extrêmement vigilants. Nous ne publions pas nécessairement les mesures que nous prenons, pour des raisons évidentes, mais nous sommes très très vigilants sur la protection à la fois de nos ressortissants, bien sûr, et de nos emprises.
Voilà, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, au micro d'Equinox Radio, juste après le sommet ce matin à Barcelone dédié à la politique de voisinage en Europe et avec les pays du sud de la Méditerranée et également à la menace terroriste. Le sénateur des Français de l'étranger, Jean-Yves Lecomte, était également en Catalogne. Il animait un débat hier soir sur le djihadisme. Il nous explique les projets législatifs et les différentes mesures prises actuellement en France pour mieux lutter contre le terrorisme.
Jean-Yves Lecomte, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sénateur des Français de l'étranger, des Français établis hors de France. Aujourd'hui, on parle terrorisme, c'est un sujet d'actualité. On a eu le ministre Laurent Fabius à l'instant. Alors, quelles mesures législatives le Sénat français entend-il impulser pour lutter justement contre la menace djihadiste?
Le Sénat avait annoncé une commission d'enquête en septembre dernier qui vient de rendre ses conclusions la semaine dernière. Nous ne préconisons pas spécifiquement des mesures législatives parce que finalement, ce qui semblait le plus indispensable est passé dans la loi qui a été votée à l'automne dernier par le Parlement en France. En particulier, parmi les choses qui étaient le plus importantes, c'était la capacité d'avoir un acte terroriste qui était individuel. Auparavant, pour être qualifié de terroriste, un acte devait être fait en organisation, c'est-à-dire avec plusieurs personnes. Ce qui, compte tenu de l'évolution des choses, de la capacité finalement de s'autoradicaliser grâce à Internet, faisait que quelqu'un qui avait ce qu'on appelle un acte terroriste, le préparait tout seul, ne pouvait pas être qualifié de terroriste dans l'acte, donc dans le code de procédure pénale, pour instruire l'acte, donc ne pas relever ensuite du parquet antiterroriste. Donc c'était une difficulté majeure. Donc ça a été corrigé à l'automne dernier. Donc on ne préconise pas de nouvelles mesures législatives à ce stade principalement, plus un traitement des fragilités de la société qui sont l'une des causes de terrorisme, d'autre part une meilleure maîtrise finalement, un meilleur travail des services, une meilleure collecte de l'information, une meilleure coordination et utilisation des informations développées, un certain nombre de croisements de fichiers sous contrôle de la CNIL, une attention particulière dans les prisons, bref, un certain nombre de dispositions. Tout n'est pas législatif. Il y a beaucoup de choses qui sont du domaine réglementaire, qui sont du domaine du bon sens, parce que finalement, quand on se rend compte que beaucoup des choses qu'avaient dit les renseignements pénitentiaires au moment où terroristes du mois de janvier ont quitté Fleury-Mérogis n'ont pas été correctement exploitées après. Finalement, avec Internet, la capacité, le terrorisme a changé de nature. Auparavant, le terrorisme, c'était d'abord du terrorisme international, ou national, mais pour une cause donnée. Et donc, en fait, quand on avait identifié la cause, on connaissait ceux qui la soutenaient, et on pouvait, les services surveillaient, on pouvait savoir. De la même manière que quand tel pays, la Libye par exemple, Kadhafi, avait un désaccord et fomentait un attentat, voilà, on savait qui étaient les réseaux. Donc le terrorisme international, j'allais dire, d'il y a 15 ou 20 ans, il était, de ce point de vue-là, assez facilement identifiable. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, parce que finalement, la menace, elle est interne. Elle est dans nos propre population. Elle est au sein même de la communauté nationale. C'est les fragilités de la société qu'il convient de traiter pour éviter qu'il y ait des dérives et des risques. Mais en même temps, parce que cette menace nationale, elle vient de la capacité d'acquérir par Internet, de s'automotiver à plusieurs à distance en disant oui, la société, elle a tel ou tel problème, vive telle ou telle chose pour telle cause. On va faire un acte terroriste, on trouve sur Internet les modes d'emploi, l'autoradicalisation, et par conséquent, c'est un nouveau gap technologique. On n'a pas besoin d'avoir un groupe déjà constitué. Si on cherche, on trouve. Peu importe la motivation, si elle est pour telle ou telle conception radicale de l'islam, qui en fait n'est pas une conception de l'islam, mais au nom, enfin au pseudo-nom de l'islam, de faire un acte terroriste, ou au nom de la Novorossiya, comme certains le font dans l'est de l'Ukraine, ou pour d'autres causes. À la limite, peu importe la cause, le fait est qu'avec les outils de communication actuels, quelqu'un qui veut aller dans cette voie-là pour servir telle ou telle idée ou peut trouver tout sur Internet tout seul. Et par conséquent, il faut qu'il y ait des moyens nouveaux pour lutter contre ce nouveau terrorisme qui est finalement un nouveau gap technologique.
Alors justement, quelles sont les mesures concrètes? Est-ce qu'elles se prennent? On a l'impression que tout se fait très lentement, que l'administration finalement a peut-être toujours un coup de retard.
Comme dirait l'autre, c'est le coup de l'armure et puis de l'obus. Hein. Je veux dire, à fort et à mesure les obus deviennent menaçants, on change le blindage. Du point de vue-là, on a besoin aujourd'hui de faire en sorte qu'Internet soit plus surveillés. Mais plus surveillés ne veut pas dire qu'on doit bloquer Internet. Internet reste un formidable moyen de liberté de l'information, de circulation de l'information, qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas remettre en cause. Mais effectivement, il y a un certain nombre de choses sur Internet qui doivent être un peu plus contrôlées. Bah, faut traiter ces causes pour éviter qu'il y en ait.
Alors justement, comment on les traite ces causes? Parce qu'il y a un site Internet, mais bon, c'est pas vraiment rédhibitoire. Hein.
Bah, les causes, c'est le plus difficile à traiter, hein, parce que les fragilités de la société, finalement, on les connaît. La première cause, c'est la capacité de chacun à trouver une place dans la société. Donc c'est d'abord le chômage, l'emploi, la capacité de chacun à être respecté et digne dans la société. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on a identifié depuis très longtemps et avec lequel on a énormément de mal aujourd'hui. La réponse, elle est en tout cas. Moi, je dirais qu'au niveau des principes, il y a deux choses. S'il y avait quelqu'un qui avait la solution absolue, je pense qu'il serait aujourd'hui encensé par tout le monde. Chacun essaye de trouver des solutions. Mais il y a deux, trois choses qui méritent d'être indiquées. La première, c'est que dans un certain nombre de cas, on a besoin de mesures répressives à court terme. Faut veiller à ce qu'elles ne provoquent pas de nouvelles frustrations. Je le dis par rapport à la prison, je le dis par rapport aux gens qu'on envoie en prison, je le dis par rapport à un certain nombre de discours qui stigmatiseraient telle ou telle situation, telle ou telle chose, qui peuvent provoquer des frustrations. Finalement, le jour où on a vraiment peur, on perd sa rationalité. Et quand on perd sa rationalité, objectivement, la société, elle est dictée plus par les instincts, par la raison, et à partir de là, la capacité à défendre la démocratie, elle est mise en cause.
Alors, autre sujet, en lien toujours, certains dénoncent la nouvelle loi sur le renseignement, en disant qu'elle ôterait des droits politiques sans apporter de réelles solutions pour la sécurité. Vous, qu'en pensez-vous ?
Cette loi est une loi qui, finalement, va recadrer le travail des services de renseignement. La dernière date de plus de 20 ans. Donc à un moment où les services de renseignement avaient d'autres... On surveillait pas de la même manière. Internet, on n'était même pas assez balbutiement. Il y avait que les experts qui connaissaient ce que c'était et c'était pas développé. Donc c'est assez logique finalement de se poser la question de ce qu'on doit faire aujourd'hui. C'est pas une loi qui est un enfant de notre trajet de Charlie Hebdo. C'est pas une loi qui a été mis en place parce qu'il y a eu des attentats en janvier. C'est une loi qui vient de loin, qui est attendue parce qu'il y avait besoin de modifier un certain nombre de choses et de recadrer le cadre législatif qui encadre le travail des services de renseignement. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est en travail à la commission des lois de l'Assemblée nationale et nos travaux au Sénat vont débuter probablement demain ou après-demain. Et d'ailleurs, disposer de nouveaux outils, non, parce que finalement ils les ont. Mais que ces nouveaux outils soient encadrés. Parce que si la dernière loi datait de 91, tout ce qui est sur Internet n'est pas dans la loi. À partir du moment où finalement n'importe qui a ce type de smartphone finalement a mis sa vie privée à la disposition d'Apple, Apple qui ne garantit pas notre sécurité, il ne faut pas non plus considérer comme un scandale absolu que, puisqu'il y a un certain nombre d'entreprises privées, souvent d'ailleurs américaines, mais d'autres, qui peuvent avoir à disposition l'ensemble de ce qui presque relève de notre intimité. Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, je comprends, et je serai du côté de ceux qui défendront les libertés individuelles et la protection de l'intimité. Mais je dois dire toutefois que si l'État a d'abord la vocation de protéger la sécurité des citoyens et des hommes et des femmes, et si l'État doit avoir à sa disposition les moyens pour le faire. Et je ne comprendrai pas non plus qu'au moment où on accepte que finalement l'ensemble de son intimité soit à disposition de quelques sociétés privées qui finalement en font commerce, qu'on n'accepte pas de discuter de ce que l'État peut avoir avec des contrôles et des vérifications pour pouvoir garantir la sécurité de ses citoyens.
Pour revenir un petit peu à la menace terroriste qui est particulièrement d'actualité, vous êtes sénateur des Français hors de France, votre circonscription, c'est le monde entier. Alors quel est l'état d'esprit justement de la communauté française à travers le monde depuis janvier dernier notamment ?
Il y a deux aspects. Il y a ce qui nous a tous frappés quand ça a frappé la France. Vous avez vu l'extraordinaire mobilisation partout dans le monde, en France d'abord, étonnant, et pas simplement à Paris, place de la République, mais dans tous les villages. Et puis, pour ce qui est des Français de l'étranger, les Français qui, d'eux-mêmes, sont allés devant leur consulat ou leur ambassade, accompagnés d'ailleurs d'énormément de citoyens du monde. Alors après, bien entendu, ça dépend d'où où on habite. Il est clair qu'aujourd'hui, quand on est à Bamako, à Tunis... au Kenya, on aborde ce sujet d'une manière encore plus grave, parce qu'on voit combien la situation peut être fragile dans un certain nombre de sujets. Au Kenya, il est évident que, ou au Nigeria, l'horreur de ce qui est fait est telle qu'on voit bien ce qui peut arriver si la Barry avait tout pouvoir. Que l'absolue nécessité d'essayer de faire en sorte de lutter contre le terrorisme, assurer la sécurité, parce que la sécurité, c'est la condition même de la démocratie. Et s'il n'y a pas de sécurité, les gens vont tomber dans l'irrationnel et dans la peur. Et à ce moment-là, finalement, ça ne sera plus la démocratie, c'est le gouvernement de la peur pour la peur et par la peur, c'est-à-dire c'est le terrorisme qui a gagné.
Jean-Yves Lecomte, merci d'avoir répondu aux questions d'Equinox Radio.
Merci beaucoup.
Voilà, Jean-Yves Lecomte, sénateur des Français hors de France, en interview sur Equinox Radio. Et puis juste avant, on écoutait le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Toutes les interviews seront évidemment diffusées sur le site d'Equinox, equinoxmagazine.fr, en podcast.
L'émission de référence de l'actu barcelonaise.
Le Cercle sur Equinox.